Dire ou se taire? Et s'il est décidé de rompre le silence, avec quels mots, quels adjectifs, quelles arabesques, quels détours, quelles précautions, quelles tergiversations, quelles ellipses, quelles figures de style?
Pascal Paradou.
On a tranché le coup d'une oie. Ainsi commence le nouveau roman de Bertrand Velin, qui l'avoue, son histoire prend des tours et des tours, fait des méandres, prend du temps avant que l'on sache, avant que l'on comprenne. Bonjour Bertrand Velin.
Bonjour.
Votre nouveau roman s'appelle La figure et incontestablement il a du style. Est-ce que écrire, c'est trouver une forme ?
Selon moi, pour ce qui est de mon théâtre intérieur, là, de la chose d'écrire, c'est ça, c'est faire des formes.
Oui. C'est-à-dire pas répéter le roman, la narration
Bah bien sûr, si, parce que les romans, ce sont des formes. Le conte, vous voyez, tout, ce sont des formes, bien sûr. Mais c'est une glaise qu'on peut malaxer et à laquelle on peut donner bien des aspects et des allures.
À quelle forme emprunte ce livre ? Est-ce que vous diriez que c'est un roman autobiographique ?
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est une autobiographie fantastique ou un conte autobiographique.
Mais il y a de l'autobiographie.
Il y a des éléments, bien sûr, qui font partie des choses qui sont advenues. Oui.
Le narrateur dit qu'il est le locuteur.
Oui.
Il dit « je ». Donc
oui.
C'est vous.
Oui.
C'est l'histoire d'un homme, la cinquantaine, qui plonge dans les méandres de sa mémoire.
Mm-hmm.
On peut le dire comme ça ?
On ne peut pas vraiment dire qu'il a la cinquantaine. mais en tout cas...
Il a quel âge ?
Parfois, il parle à hauteur dans une hauteur temporelle qui est celle des événements. Et parfois, il parle depuis ce qu'on peut prendre pour le présent. Oui.
Donc, un homme dans la force de l'âge.
Oui, enfin, il n'est pas seul, il y a la figure aussi. Hein.
Donc, alors justement, c'est qui cette figure ?
La figure, c'est un, si vous voulez, ce serait le l'interlocuteur qu'on croise dans le forum intérieur, dans le fort intérieur. Vous voyez, on parle souvent de la voix intérieure, du monologue intérieur. Bon, là, j'extrapole un peu jusqu'au dialogue intérieur, et ce dialogue, il s'opère avec une entité que j'ai appelée la figure.
Mais qui n'existe pas. Alors que vous dites que c'est votre...
C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Si, elle existe.
En vous ?
Oui, mais néanmoins, je veux dire...
C'est pas un autre ? Ou c'est un autre ?
Si, c'est un autre. C'est un autre. C'est toute l'ambiguïté du texte. C'est cette épissure incommensurable qui fait l'intérêt de ces circonvolutions et de cette espèce d'ambition du livre à attraper quelque chose qui est très fuyant et voir pour toujours ailleurs.
Vous dites c'est mon Sancho Panza,
oui.
En référence à Don Quichotte.
Parfois, pas que.
Pas oui. Que. C'est quoi d'autre ?
Ma tempête intérieure, si je prends ce qui est écrit dans le livre. Un jour mon Sancho Panza, un autre ma tempête intérieure. C'est-à-dire tantôt une aide, tantôt une polarité de crispation. Quoi.
Et cette figure est une invention de Bertrand Belin, écrivain, ou dans l'enfance, déjà vous dialoguez avec... Cette figure, cette autre qui est, comme vous dites, une épissure, c'est-à-dire quelque chose qui est noué à vous.
Non, elle a toujours été là. Je ne crois pas que ce soit si mystérieux que ça, hein, cette figure. C'est, vous voyez, c'est autour de quoi on crapahute lorsqu'on essaye de prendre une décision en soi-même. Vous voyez ? On fait le pour et le contre, vous voyez. Bon, le pour et le contre, c'est soi et la figure, si vous voulez. C'est, j'ai personnifié un petit peu ces deux polarités, mais il ne s'agit pas de schizophrénie, il s'agit simplement de la voix intérieure, penser à ce qui est bon pour soi ou ce qui ne serait pas bon pour soi, c'est faire un débat, c'est accéder à son fort intérieur. Et dans ce fort intérieur, eh bien, l'interlocuteur qui est soi, j'ai simplement divisé, j'ai donné un coup d'épée, si vous voulez, pour un petit peu comme aurait pu le faire, comme on le voit dans le vous voyez, pour donner le conte, le vicomte pour fendu, vous voyez, c'est pas tout à fait Janus, mais c'est quelque chose dans ce genre-là.
Et tout commence dans ce roman, dans ce conte autobiographique, tout commence par une oie à qui l'on tranche le cou.
Oui.
C'est une métaphore ?
C'est une chose auquel les oies sont confrontées réellement. Hein. Donc, d'abord, c'est un fait réel. Et je ne voudrais pas rire juste derrière cette phrase, parce que ça, du coup, ça fait comme un petit théâtre d'épouvante. Et métaphore également, puisqu'il va être question plus tard de cette chose étrange qui est le fantôme, c'est-à-dire la disparition des gens, la mort des gens n'occasionne pas leur disparition du vivant et une certaine éventuelle implication ou voire influence sur le déroulement des vies qui subsistent.
Mais cette toi à qui l'on tranche le cou, c'est un événement réel. C'est-à-dire, dans votre enfance, vous avez assisté à cette scène-là.
Oui, j'ai assisté à cette scène, oui. Et chose inouïe, c'est que la partie qui avait été détachée de cette pauvre animal, eh bien, continuait de cacarder dans les pissenlits, comme je le dis dans le livre, c'est-à-dire qu'avec quelque chose qui ressemble à de la vie, qui, pour ne plus être de la vie, continue d'être de la souffrance. Et l'autre partie du corps qui continue de gambader, donnant à l'ensemble un caractère fantastique, épouvantable. Donc oui, c'est une métaphore.
Cette scène, cette phrase, elle s'est imposée d'entrée, de jeu ?
Oui. Oui, je crois qu'elle provient aussi un petit peu. En ce cas, j'ai vu ça, mais je me souviens de la fin de Un roi sans divertissement de Giono, je crois. Il y avait une scène comme ça dans la neige avec un volatile qui était mutilé. Et chose étonnante, puisque dans mon roman Requin, il était déjà question d'un volatile mutilé. Et donc, que ce puisse être une image symbolique. C'est certain, un envol contrarié, vous voyez.
Bertrand Belin, la figure et le titre de votre roman, qui est aujourd'hui votre actualité, mais on parlera aussi de musique, car vous êtes chanteur et musicien. Tout cela après Laura Cahen, extrait de son nouvel album « De l'autre côté ».
Je ne veux pas te retarder.
Cohen sur RFI avec ce titre Fusée, extrait de son nouvel album De l'autre côté. C'est une complice musicale pour vous, Bertrand Belin.
Oui, nous avons déjà joué ensemble, on a fait des tournées ensemble, on a partagé beaucoup de scènes. J'aime beaucoup cette chanson qu'on vient d'entendre aussi.
Pour vous, pas d'album annoncé ?
Je suis en train d'enregistrer un nouveau disque là, qui paraîtra à l'automne. Oui, au mois d'octobre, je pense.
Et vous travaillez en parallèle l'écriture de romans ou l'écriture d'albums. Qui, du musicien ou de l'écrivain, l'emporte ? Vous allez me dire, ça dépend des périodes.
Non, je pense que vraiment, je suis musicien depuis l'adolescence. Donc voilà, je me sens vraiment musicien. C'est ma vie, c'est ce qui m'a permis de traverser la vie jusqu'à présent en me donnant les moyens de payer mon loyer, de subsister, d'être heureux, de rencontrer les autres, d'épanouir des territoires en moi. Donc je dois beaucoup à la musique, ça compte énormément pour moi. Maintenant, je ne serais pas chanteur si je n'écrivais pas. Et j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'avais le désir d'écrire. Sinon, je serais resté guitariste. J'avais du travail dans ce domaine, puisque j'avais beaucoup travaillé cet instrument depuis très jeune. Donc, j'aurais pu poursuivre là-dedans. Mais comme j'avais ce désir d'écrire et que je jouais de la guitare, bon, moi, j'ai commencé par écrire des chansons. Et puis, c'est un espace d'expression qui est infini aussi.
La chanson ou...
La chanson, oui. Ouais.
Mais en même temps, c'est court. Le roman permet d'avoir plus d'espace, plus de choses à dire, peut-être.
Oui, mais la contrainte de la brièveté, c'est aussi quelque chose qui me défie, quoi. Et donc, on trouvait toujours une autre manière de venir remplir ce petit écrin qu'est la chanson, ou ce petit département qu'est la chanson, avec une manière de faire récit qui soit très bref, mais qui soit conditionné par la contrainte de la brièveté. Quoi. C'est un exercice qu'on peut toujours et encore remettre sur l'établi. Ça peut durer beaucoup plus d'une vie. Quoi. Il se trouve qu'on n'en a qu'une. Mais...
Et il y a en tout cas des fils conducteurs et des ponts entre les textes que vous écrivez pour vos albums et ce texte-là, la figure. Par exemple, vous avez, dans l'édition augmentée de votre dernier album, Tambour Vision, rajouté une chanson qui s'appelle La figure et moi.
Oui. Marcel Canche, le chanteur, auteur et musicien Marcel Canche, m'avait demandé de lui écrire un texte pour son prochain disque. Et puis, j'ai écrit ce texte. Et puis après, je lui ai demandé autorisation. Il en a fait une chanson qui est parue sur son propre album. Puis après, je lui ai demandé autorisation d'en faire ma propre version. Et c'est chose faite. Donc oui, c'est simplement parce que j'étais déjà en train d'écrire ce livre que la figure était une figure qui me obsédait ou qui m'intéressait, qui m'accompagnait quotidiennement. Et que moins que des liens entre les albums et les disques, le seul lien, c'est qu'ils ont été tous les deux produits dans un temps où j'étais travaillé par des questions qui rejaillissent sous quelque forme que ce soit. Mais c'est pas pour faire des récits, vous voyez. Réellement. Du matin au soir, la figure est là. Elle et moi, au sabre, nous fendons le brouillard. La figure est là, du matin jusqu'au soir. Et la nuit aussi, elle est ici. Nous épousons ce val obscur comme une seule chose, une épissure. La nuit aussi, la figure est ici. Quand je fume, nous sommes deux amis à qui sourit la vie. C'est un agrégat qui n'est pas nouveau. Nous nous sommes connus au berceau, au landau. Nous sommes montés en neige. Je suis le fardeau que la figure allège. Deux amis à qui sourit la vie. Thank you.
nous sommes deux amis. Deux amis à qui sourit la vie. À qui sourit la vie. À qui sourit la vie.
La figure et moi, chanson, la figure, titre de votre nouveau roman, Bertrand Belin, roman qui convoque les souvenirs, qui joue avec les caprices et les jeux de la mémoire. Vous évoquez l'art du souvenir. C'est quoi cet art-là? C'est le fait de cacher, de transformer, d'enjoliver, d'emmêler?
Oui, c'est un peu poivré dans ma bouche quand je dis l'art du souvenir, c'est pour en faire un tout petit peu trop. Vous voyez. Et c'est-à-dire que c'est comme le cinéma, si vous voulez, c'est une projection. Et on projette quelque chose sur un écran, l'écran du présent. Le souvenir, c'est une projection dont nous sommes les projectionnistes, quoi. Donc à ce titre, je pourrais dire que c'est un art, ouais, c'est une fantaisie de le dire comme ça.
Mais dans ce livre, les souvenirs sont parfois des faits très précis, comme cette oie à qui on tranche le cou, et il y a d'autres faits, mais il y a aussi beaucoup de sensations, beaucoup d'impressions, beaucoup de profusion dans le ressenti de ces souvenirs 20, 30, 40 ans après.
Oui, parce que c'est vrai que je me demande toujours comment... On peut très bien supposer, on se rappelle... On sait pourquoi on peut avoir le souvenir marqué pour longtemps d'une oie qu'on décapite sur les planches d'un tourniquet, vous voyez. Parce que c'est très marquant. C'est très unique comme événement. Mais ce souvenir de ce que l'on éprouve quand on se promène sur la plage il y a 45 ans ou dans les chemins de terre... Bon, là, il faut aller chercher quand même, lorsqu'il n'y a pas d'événement saillant, marquant, pour venir graver la mémoire durablement, il y a une forme d'invention, de pari, ou de... Oui, de genre, chercher une façon de dire qui n'était pas exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose entre ce que l'on continue d'éprouver lorsqu'on marche dans un chemin aujourd'hui et ce qu'on suppose que ça a pu être alors dans un autre temps, dans un autre environnement. Donc une sorte de mensonge plus.
Dans vos souvenirs et dans ce livre, la figure, il y a donc un père violent et une mère très belle, dites-vous, dont vous racontez comment votre souvenir se focalise sur une veine palpitante sous son œil. Et c'est une image récurrente dans le livre.
Oui.
C'est le souvenir que vous avez de votre mère ?
Pas du tout, pas du tout. Non, c'est la façon de raconter une situation d'oppression et qui est trahie par, et de souffrance qui est trahie par une palpitation infime. C'est de loger l'ensemble de la difficulté et des terreurs qu'a pu traverser cette femme dans un signe infime. C'est ça, non, c'est pas, c'est, bien sûr que c'est un trou de serrure, si vous voulez, par lequel on regarde. C'est pas autre chose. Voilà.
C'est une condensation.
Oui, c'est le mot exact. Ouais. J'aurais pas dit ça parce que j'ai pas ce vocabulaire-là, mais spontanément, condensation, ça m'appelle autre chose. Mais c'est tout à fait ça, une condensation. Ouais.
Alors, il y a cette femme avec sa souffrance, il y a aussi votre souffrance face à ce père qui est aussi une figure. On dit souvent ça, la figure paternelle.
Oui. Bah, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Oui, alors là, on dit ça. Je ne sais pas si je le dis, moi, dans le livre, je ne crois pas le dire.
Mais... Non.
Non. Oui, mais tout est figure. Hein. Et, oui, bah, il s'agit d'un père, comme il y en a des millions. Hein. Après, la souffrance du narrateur, la souffrance qu'exprime le narrateur, il exprime surtout la souffrance au présent de la narration, hein, présent de la narration. Ce que c'est advenu, ce qui est advenu de cette mise sous terreur. Parce que quand on est dans le feu, vous voyez, on pense à autre chose, on a d'autres chats à fouetter.
Votre père était pêcheur.
Bon, il a fait la pêche, mais il n'a pas été que pêcheur. On ne pourrait pas le qualifier de pêcheur. Il l'a été, oui, mais il a fait d'autres métiers.
Et il était tyrannique. Et vous avez eu envie de le tuer. Vous l'avez déjà raconté ? Vous l'aviez déjà raconté, cela ?
Bah, c'est-à-dire, ce n'est pas ce que je dis. Hein. C'est un... y a un contexte, si vous voulez. Vous voyez, je suis pas venu à la radio pour dire que j'ai ourdi un assassinat.
Non.
Il y a un contexte littéraire, vous voyez, c'est...
Mais il y a une violence, quand même.
Bah, bien
dans
sûr.
Ce livre-là, très
bien
forte.
Sûr. Bien sûr, mais vous voyez, c'est ce que peut être un projet d'oxyre quelqu'un quand on a 10-12 ans, vous voyez, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on appelle un crime prémédité, vous voyez, c'est il faut faire un peu de nuance, quoi. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 10 pages pour décrire par le menu ce que ça peut être que de vivre dans une situation où on a peur de quelqu'un comme ça, pendant des années, hein, pendant des années, parce que c'est-à-dire que ce livre aussi, c'est le livre de chaque personne qui aujourd'hui même vit ce genre de situation, hein, c'est ça le livre. Donc oui, à un moment donné, il faut imaginer des solutions par lesquelles ça pourrait prendre fin, oui, bien sûr. Ouais. Donc je pousse les curseurs dans le rouge pour pas avoir à écrire 12 pages sur le sujet, qu'on comprenne bien la dimension paroxystique de la situation, quoi.
En peu de mots.
Bah, idéalement, oui.
Ce père que vous n'allez donc pas tuer, mais que vous allez voir à l'annonce de sa fin, vous êtes adulte, j'aimerais que vous nous lisiez, Bertrand Belin, un court extrait de ce roman « La figure ».
J'étais à tendre la main pour attraper le briquet qui s'était égaré sur les draps quand le téléphone a sonné et que, le portant à mon oreille, j'appris que le chef de famille, amaigri et marbré, disons gris-bleu, presque muet, flottait dans les courants d'air ascendant de la morphine, son corps au lit, disons au bout du rouleau, quoi. N'ayant rien à attendre, aucun animal à confier, je suis venu tout de suite. J'ai été réactif, voilà de quoi moudre. Pourquoi cet empressement ? Enfin... Toujours est-il que je suis là. Depuis combien de temps, qu'importe. Je ne sais pas ce que je suis venu trouver, chercher du moins ici. J'avais bien un petit mot à dire au malade. D'ailleurs, je l'ai écrit, ce petit mot, dans le train qui me ramenait au pays natal. Hélas, diront d'aucuns que c'était prévisible, il arriva trop tard. Je suis revenu vers cette famille que je n'ai pas suivie alors qu'elle disparaissait dans la cage d'escalier après tant d'années. Et pourtant, je le sais, je le jure, je le sens même, j'ai toujours été là, pour ainsi dire. Oui, c'est à prendre ou à laisser, j'ai moi-même dû m'y faire. Voilà, bon. Maintenant, en avant la suite, l'heure évolue.
Extrait de La Figure, votre nouveau livre, Bertrand Belin, c'est extraordinairement oral où vous êtes un extraordinaire lecteur.
Bon, écoutez, je vous remercie, c'est toujours agréable de l'entendre, mais bon, je lis à peu près dans la forme que j'imagine que ça doit être lu. En tout cas, quand je l'écris, je fais un peu ce travail-là, je couche ce que je pourrais dire.
Mais un livre doit être lu à voix haute ?
Non. C'est bien la qualité principale du livre que de pouvoir véhiculer du sens à partir d'une matière qui est l'encre et qui est codifiée sur une page et en silence. Je veux dire, c'est bien longtemps avant la Wi-Fi, quoi. Et ça se transforme en monde dans la tête du lecteur ou de la lectrice. C'est extraordinaire.
D'où l'importance du silence. Alors, cette scène que vous avez lue, qui est donc l'annonce de la mort du père, elle est écrite deux fois, à quelques pages d'intervalle, avec une question qui est ouverte. Qu'est-ce que l'amour pour un père ?
Ouais. Bah, c'est... comment dire ? C'est un amour obligatoire. Je ne sais pas ce que ça peut être l'amour pour un père, mais il n'est pas toujours au rendez-vous. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un lien qui est très fort, mais ça, j'ai pas les réponses. Il faut être un anthropologue ou je ne sais pas quel spécialiste pour aborder ces questions si profondes. Moi, je suis pas capable d'aborder ces questions sur un plan scientifique ou philosophique en profondeur. J'ai une approche sensitive et poétique de la situation, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour un père ? Dans ce cas-là, dans un cas comme celui-là, mais parlons d'amour filial, enfin en tout cas d'un lien si puissant qu'on peut le confondre avec quelque chose d'essentiel, qui est une des qualités de l'amour, ou en tout cas des attributs de l'amour, cette dimension essentielle. Et donc on peut prendre pour de l'amour quelque chose qui n'en est pas vraiment, mais qui peut être soit une terreur, soit une dépendance, soyez quelque chose comme ça. Donc là, il n'est pas question d'amour pour un père dans ce livre.
Il est plutôt question de haine. Mais vous parlez quand même d'amour fossile.
Oui,
dans
l'acception que je viens de signaler de l'amour comme un mot qui n'a de vertueux que sa prononciation, mais dont les sens sont pas tout à fait bien délimités, quoi.
Alors, sur l'écriture et la convocation des souvenirs, j'ai reçu récemment Olivia Rosenthal, écrivaine, dont le nouveau roman « Une femme sur le fil » plonge aussi dans sa mémoire et elle y fait l'éloge des funambules.
J'aime les funambules parce que, à la fois, ils sont obsessionnels parce qu'ils font toujours des allers-retours sur le fil, mais en même temps, ils sont quand même obligés d'aller d'un point A à un point Z. Donc, ils sont quand même obligés à un moment d'avancer. Et je me dis, c'est un beau modèle, plutôt que d'essayer de faire des cercles, de travailler la droite.
Ça veut dire qu'il faut se débarrasser du passé ? De ce qui hante, justement, des fantômes.
Après, est-ce qu'on avance vers le futur ? J'en sais rien. Ça, c'est notre idée un peu facile. On a tendance à penser que si on dessine une ligne, à gauche, on aura le passé, et à droite, là où on va, c'est l'avenir. Mais je ne sais pas si on avance vraiment vers son avenir. Peut-être qu'on avance aussi vers son passé. Hein. Et d'ailleurs, je parle un peu de ça dans le texte, puisque j'évoque cette histoire de tourner en rond, de la spirale. Et j'ai l'impression quand même qu'écrire, c'est aussi constamment approfondir, c'est-à-dire donc aussi, avancer vers ce qu'il y avait avant.
Bertrand Belin, c'est cela, écrire pour vous aussi ?
Oui, j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit. Je me représente ça aussi. D'ailleurs, je l'explique d'une façon synthétique dans le livre. Les années sont passées, je ne sais plus dans quel ordre. Voilà ce que je dis pour mettre en lumière ce rapport pas tout à fait très, très net à la question du temps, du passé, de l'avenir et du présent, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai qu'en se projetant, en perforant la matière de la mémoire, on est quand même dans quelque chose qui avance, du coup, va perdurer, quoi. Alors, c'est un mouvement paradoxal, mais c'est bien ça, oui, il y a quelque chose de la spirale, oui. Après, du point A au point Z, j'ai bien aimé qu'elle dise au point Z, parce que j'aurais dit B spontanément, vous voyez, comme s'il y a des zones quand même qui étaient hors d'atteinte, quoi. Mais c'est juste une anecdote.
Vous dites dans ce livre, la figure, que le passé est un temps invasif. Donc, ouais. En effet, si on ne fait que regarder le passé, c'est mortel.
Bah, je ne sais pas si c'est mortel. Non, je ne pense pas que ce soit mortel. Sinon, ça n'a pas bonne presse, parce que des choses comme la nostalgie ou le regard vers le passé, c'est assez mal vu dans nos sociétés, où il faut rappeler tout le temps qu'on va de l'avant et que le passé ne nous intéresse pas et que tout ce qui compte pour moi, c'est les lendemains. C'est une position philosophique existentielle compréhensible. Et viendra le moment où je tiendrai ce discours aussi, s'il arrive. On peut aussi, pour moi, avoir le passé là, que j'ai, ça ne m'occasionne pas que des désagréments, vous voyez. C'est une matière biographique dans laquelle je fais des perforations et qui peut être intéressante aussi pour comprendre le monde aujourd'hui, le monde présent, ce que vivent les autres. Vous voyez, c'est une expérience, quoi, qui n'est pas forcément un fardeau.
Ça permet d'élucider le monde et sa vie.
Éventuellement.
Merci Bertrand Belin. La figure est éditée chez POL. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve demain.